Alors voilà pour ce soir, donc la sixième étude de l'année sur la vie de David, avec pour titre Construire sa maison. L'importance de nos projets, David en tant que bâtisseur. En fait, c'est un peu un faux titre parce que David, lui, n'a rien bâti, mais enfin, il a quand même préparé beaucoup de choses et on le verra. Alors on est avec la vie de Saül et puis de David ensuite, après la période des juges, une période où chacun faisait ce qui lui semblait bon, et le peuple a voulu un roi pour faire comme les autres nations. Le Seigneur voulait être leur roi, mais le peuple veut faire comme les autres. Dieu accepte cette demande, néanmoins cette demande, et puis Israël aura donc un roi. Dieu n'est pas pris au dépourvu, d'ailleurs. Dans la loi, dans le livre du Deutéronome, il y a déjà des lois qui concernent le roi. Tout un chapitre, d'ailleurs, dans Deutéronome 17, plusieurs lois qui concernent le roi. Dieu n'est pas contre le régime de la royauté en lui-même, hein. Mais les motivations qui ont poussé le peuple à demander un roi ne sont pas bonnes. C'est d'ailleurs dans ce chapitre 17 du livre du Deutéronome qu'il est question du roi et que ce roi devait posséder une copie de la loi. Et c'est de là que vient notre mot en français Deutéronome, la deuxième loi, une copie de la loi. Alors la première expérience avec le roi Saül n'a pas vraiment été concluante. Et ensuite, David est choisi pour prendre la suite à la tête du peuple. Son autorité est reconnue de façon progressive et son règne commence à être bien établi après la prise de Jérusalem. Et à peine quelques chapitres plus loin que cette prise de Jérusalem, on a Dieu qui fait une promesse magnifique à David. Texte qui a déjà été l'objet de la prédication dimanche dernier, donc ce texte dans 2 Samuel 7 que nous allons relire encore dans un instant, et texte toujours qui va nous parler encore autrement parce que Adeline apportera une prédication aussi sur ce texte, du moins en tout cas la deuxième partie du chapitre 7,
peut-être,
peut-être,
ce que tu dis ce soir.
peut-être. Mais moi, je vais rester en fait sur la première partie. Les versets 1 à 17 du chapitre 7 de 2 Samuel 7. Et bien voilà, si quelqu'un veut bien le lire à haute voix, si vous lisez à haute voix normalement, ce sera bien enregistré parce que le micro s'adapte bien. Donc si quelqu'un veut bien lire 2 Samuel 7, versets 1 à 17, pour qu'on ait bien ce texte en tête.
Comme le roi s'était installé dans son palais, et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan: Regarde, j'habite dans un palais de cèdre, alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. Nathan lui répondit: Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes: Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, longeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, ai-je jamais dit à un seul des chefs d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne me baptisez-vous pas un temple en bois de cèdre? Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons, pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui des grands de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël, où je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants, comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël. Je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il te constituera une dynastie. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation.
Un chapitre central qui contient donc une promesse assez majestueuse hein, de Dieu. Certains spécialistes estiment que ce chapitre ne serait pas à la bonne place au niveau chronologique, parce que le verset 1 nous dit que Dieu a délivré David de tous ses ennemis, et dans les trois chapitres qui suivent, les chapitres 8 à 10, il y a encore un certain nombre de victoires de David sur ses ennemis qui nous sont rapportées. Mais quoi qu'il en soit, on remarque bien que David est bien installé, déjà dans son règne. Il s'est bâti un palais, une belle maison, et il remarque que Dieu, lui, n'a rien d'autre qu'une tente. Alors il projette de construire un temple, comme cela était la norme à cette époque. Les rois construisaient souvent des temples pour les dieux, et puis c'était pour le repos des dieux. Alors il va s'en ouvrir au prophète Nathan, qui était un de ses conseillers. Il dit, tu vois, moi j'habite une maison en bois de cèdre, mais le coffre sacré a seulement une tente de toile comme maison. Et le prophète comprend le sous-entendu, et puis il lui dit tout de suite, il va l'encourager, il pense que les motivations de David sont tout à fait louables, et que ses intentions ne pourront être qu'approuvées par Dieu. Et il lui dit, tu as sûrement une idée à ce sujet, fais ce que tu penses, le Seigneur est avec toi. Mais Dieu ne l'envisageait pas comme ça, et alors il va se révéler à Nathan, en lui disant qu'il ne veut pas que David lui construise une maison, et qu'il fallait donc le lui dire pour le stopper dans ses intentions. Mais alors la grande question, c'est pourquoi ? Peut-être une des premières raisons, alors il y en a d'autres que Jean-Philippe nous a déjà donné dimanche, hein. La grâce de Dieu, hein. Dieu n'a pas besoin qu'on lui offre quelque chose, même s'il nous offre le règne, même s'il nous offre des victoires, hein. C'est par grâce que Dieu nous accompagne. Mais peut-être une autre raison, c'est aussi que Dieu n'en a pas besoin, n'a pas besoin de maison. Dieu n'a jamais demandé, d'ailleurs, il le dit, hein, à ce qu'on lui construise un temple. Ça lui convient, si on peut parler ainsi, d'être un Dieu nomade qui accompagne son peuple dans ses déplacements, dans tout son voyage, comme lors de la sortie d'Égypte, hein, dans la traversée du désert ou dans la conquête du pays promis. D'ailleurs, dans l'épisode du désert, la tente donc du tabernacle, hein, c'est moins une maison, un lieu où Dieu habite, qu'un lieu de rencontre. Hein. Dieu se manifestait plutôt par la nuée, le jour et une colonne de feu la nuit. Il se déplaçait, c'est lui qui décidait quand s'arrêter et quand repartir. Et quand le peuple s'arrêtait, alors on installait la tente qui était même en dehors du camp, et Dieu manifesta alors sa présence en mettant une nuée à l'entrée de la tente. Et c'était le lieu où Dieu rencontrait Moïse, par exemple, mais c'était aussi le lieu où le peuple pouvait consulter Dieu. En Exode 33, verset 7, on peut lire « Quand les Israélites installent leur camp, Moïse prend la tente sacrée et il la dresse en dehors du camp, assez loin. On l'appelle la tente de la rencontre. Tous ceux qui veulent consulter le Seigneur sortent du camp et vont vers cette tente. » Le Seigneur est plus du genre à planter sa tente où il veut et quand il veut pour rencontrer son peuple, plus qu'à se laisser, en tout cas, enfermer dans les quatre murs d'une maison. Dieu est quelque part en mouvement, il est nomade et il n'a pas besoin de maison. Et c'est ce même Dieu nomade qui finira par s'incarner en Jésus-Christ en devenant homme. Et dans le prologue de l'évangile de Jean, on a ce verset, hein, « La parole s'est faite chair et elle a fait sa demeure parmi nous. » Et littéralement, elle a fait sa demeure, on pourrait traduire, elle a planté sa tente parmi nous. Jean 1, verset 14. Ce que nous célébrons à Noël, donc l'incarnation du Fils de Dieu, c'est quelque part, encore une fois, ce Dieu nomade qui a planté sa tente parmi nous pour venir à notre rencontre. Et après sa résurrection, le Fils remonte auprès du Père et le Saint-Esprit est envoyé sur les disciples et dans chaque croyant. Et aujourd'hui, nous sommes le temple du Dieu nomade qui chemine encore avec nous. Alors David voulait construire une maison pour Dieu, mais Dieu va renverser cette perspective. Il dit « Ce n'est pas toi qui vas me construire une maison, c'est moi qui vais t'en construire une » avec un jeu de mots, hein. C'est bien sûr, Dieu ne va pas construire un palais. David a déjà son palais. Mais la maison dont parle le Seigneur, c'est une dynastie, une famille royale, un règne qui en plus n'aura pas de fin. Une dynastie établie pour toujours. On trouve dans les documents historiques qu'on a retrouvés du Proche-Orient ancien de telles promesses faites entre ce qu'on appelle les suzerains et les vassals, donc entre un chef qui domine et par exemple un chef d'un autre peuple mais soumis à ce premier chef, il y a des promesses qui sont faites comme ça, mais ce qui est unique dans notre texte, c'est que Dieu s'engage lui tout seul. David ne dit rien. C'est d'ailleurs, Dieu se révèle à Nathan, puis ensuite Nathan répète tout cela à David. Mais Dieu s'engage de façon unilatérale, comme d'ailleurs, ça nous rappelle cette alliance que Dieu fait avec Abraham, hein, où vous savez qu'il y a donc ces animaux-là qui sont coupés en deux, et puis Dieu passe entre les animaux. Il fait une alliance avec Abraham, sans qu'Abraham ne fasse rien, c'est déjà donc la grâce, quelque part, qui est exprimée ici. Dieu s'engage, fait une promesse, sans qu'il n'y ait aucun mérite du côté de David. Et évidemment, ce règne sans fin, on y a vu une portée, une dimension messianique. À ce moment-là, la portée de cette promesse faite à David est encore voilée, mais elle va se préciser petit à petit, dès l'Ancienne Alliance, dans le discours des prophètes, où le titre « Fils de David » finira par devenir un titre messianique, et où même toutes les allusions à la famille de David ou à la descendance de David sont souvent dans des passages avec une portée messianique. Et je vais juste lire là quelques versets pour qu'on s'en aperçoive bien. Donc dans Amos, au chapitre 9, le verset 11, hein, il est question du Seigneur qui ce jour-là relèvera de sa chute la cabane de David. Donc ce n'est pas la maison là, de David, mais la cabane de David, c'était devenu une cabane en ruine en quelque sorte. « Je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines et je la reconstruirai comme elle était autrefois. » Un texte que d'ailleurs l'apôtre Jacques va citer lors de ce qu'on a appelé le concile de Jérusalem, hein, lors de la question de la circoncision ou non des païens, hein, des croyants d'origine non juive. Et Jacques parle justement, cite ce texte-là, en voyant dans cette restauration de la maison de David, de la cabane de David, le fait que les nations aussi sont appelées à faire partie du peuple de Dieu, à part entière. Ésaïe 9, versets 5 et 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et surtout maintenant le verset 6. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. Et toujours dans Ésaïe, à peine deux chapitres plus loin, Ésaïe 11, verset 1, « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, Isaïe étant le nom du père de David. C'est un autre nom pour Jessé, dans d'autres passages. Donc un rejeton de ses racines portera du fruit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, etc., etc. » Et à la fin de ce même passage, « Ce jour-là, au verset 10, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. » Encore une fois, la racine d'Isaïe, en fait, c'est même la descendance aussi donc d'Isaïe et donc de David. Et Jérémie, chapitre 23, au verset 5, « Voici... que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David un germe juste. Il règnera avec compétence, il exercera le droit et la justice dans le pays. » Donc, chez les prophètes déjà, ce texte a un retentissement, hein, puisqu'il est question de David, du trône de David, de sa descendance. Et là même, dans ce texte-là, à David, hein, bien sûr, au temps de Jérémie, David n'était plus là, donc c'est à la famille de David, au nom de David, à la renommée de David, à toute sa dynastie. Les prophètes de l'Ancien Testament ne sont pas les seuls à avoir compris de cette façon la promesse de Dieu à David, puisque... Environ deux siècles avant Jésus-Christ, dans une secte juive, la communauté de Qumran, dont on a retrouvé un bâtiment et puis les fameux manuscrits de Qumran, ils avaient une croyance spécifique à eux. C'était un des mouvements du judaïsme, les Esséniens. Et ils comprenaient aussi ce passage de façon messianique. Ils parlaient de l'établissement de la vraie maison d'Israël sous la conduite du Messie Davidique et de l'ère de paix qui suivra. En fait, ce passage, c'est une des sources principales dans l'Ancien Testament de l'espérance messianique. On en a d'autres, on a le serviteur, par exemple, aussi chez Ésaïe. Mais là, on a David et sa descendance, le fils de David, comme un des sources principales de l'espérance messianique qui a nourri le peuple juif pendant des siècles. À plusieurs reprises aussi dans l'Ancien Testament, il est question de l'alliance avec David. Pas dans notre texte, dans 2 Samuel 7, le terme d'alliance n'est pas mentionné, mais on le trouve largement mentionné dans d'autres textes. Pas plus loin que quelques chapitres à peine après, dans 2 Samuel 23, verset 5, on peut lire « Il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi. » C'est David qui parle, « en tout point, bien réglé et bien gardé. Il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. » Et puis alors, c'est pas que dans la bouche de David, hein, par exemple dans deux chroniques, 13, verset 5, « Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David, à lui et à ses descendants, par une alliance inviolable ?» Et on pourrait citer encore le psaume 89, au verset 4. « J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi, j'ai fait ce serment à mon serviteur David. J'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. » Et enfin encore Jérémie 33, verset 21. Encore une fois, il est question de l'alliance. « Alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David. » Voilà, et il n'y aurait plus de fils pour occuper son trône. Donc ce terme d'alliance est bien mentionné à plusieurs reprises, au moins 5 fois, là je vous ai lu. Mais il y a encore d'autres textes qui mentionnent cette alliance faite avec David. Et enfin, bien sûr, le titre « fils de David », on le trouve dans le Nouveau Testament, avec notamment ce passage très connu où c'est l'aveugle qui interpelle Jésus avec ce titre, « fils de David ». Mais dès le début de l'évangile de Luc, par exemple, où Dieu donne à Jésus le trône de son ancêtre David, et il est précisé qu'il règnera sur la maison de Jacob pour toujours et que son royaume n'aura pas de fin. Une allusion très claire à cette promesse de 2 Samuel 7. La dynastie établie pour toujours, un règne sans fin, eh bien, ça ne peut que pointer vers celui qui est venu établir le royaume de Dieu. Donc, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On a même des citations de notre texte dans le Nouveau Testament. Quand il est question « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils », c'est cité au moins 2 fois dans le Nouveau Testament. Et on a également, dans le discours d'Étienne, une allusion très claire, encore une fois, à ce texte, en acte 7. Ce n'est pas une citation directe, mais c'est une allusion plus que claire. « David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob, mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. » Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Ça, dans le discours d'Étienne. Donc voilà, un texte vraiment central dans toute l'Écriture. Après avoir dit donc tout ça, il faut quand même dire qu'il y aura un temple, effectivement, qui sera construit, mais pas par David, et dans les conditions que Dieu fixera lui-même. Et c'est Salomon qui est le premier représentant de cette dynastie de David, qui lui bâtira le temple, et il sera dit clairement que cette maison de Dieu ne peut en aucun cas le contenir. Et c'est Salomon lui-même qui le dira dans sa prière, est-ce que Dieu peut vraiment habiter sur la terre ? Le ciel est immense, mais il ne peut pas te contenir, toi, mon Dieu. Et ce temple que j'ai construit est beaucoup trop petit pour toi. Donc, voilà. Salomon qui a bâti le temple dit déjà, voilà, il est trop petit, ce temple. Et j'aime bien cette idée qu'on construise quelque chose pour Dieu, mais qu'en même temps, tout ce qu'on peut construire pour Dieu restera trop petit pour lui. Nos églises, même si elles peuvent grandir, sont trop petites, nos vies aussi sont trop petites, et si on pensait le contraire de cela, ce serait peut-être de l'orgueil aussi. Donc Salomon, dans la sagesse que Dieu lui a donnée, reconnaît que le temple est trop petit pour Dieu. Alors on peut quand même en conclure que Dieu accueille ce que nous construisons pour lui. Il a rempli le temple de Salomon de sa gloire et il habite les temples que nous lui offrons, c'est-à-dire nos vies. Mais ce qui compte avant tout, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que nous, on va offrir à Dieu, c'est ce que lui va construire pour nous. Et il va construire un projet pour nos vies, pour nos églises. Et c'est son royaume, tout simplement, qui est appelé à grandir dans notre cœur, qui est appelé à grandir dans notre Église et qui est appelé à grandir dans notre monde. Alors finalement, le projet de David de construire un temple a abouti, mais pas comme il le pensait. C'est les projets de Dieu qui s'accomplissent et ils étaient différents des siens. Mais Dieu révèle à David son projet quand même. Celui d'une autre maison, une dynastie qui aboutira à un autre royaume, le royaume de Dieu, qui sera inauguré en la personne de Jésus-Christ, à peu près 1000 ans après cette promesse. Ça montre aussi le Dieu du temps et de l'histoire. Lorsqu'il parle, Dieu, il peut réaliser ce qu'il dit 1000 ans après. Ça, nous, on ne peut pas le faire. Nous pouvons faire des projets, mais c'est en définitive le projet de Dieu qui s'accomplit. Alors David ne pourra pas construire le temple, mais il va tout préparer pour sa construction, et notamment il va même recevoir de la part de Dieu le plan de ce temple. Et là, on va quitter 1 et 2 Samuel pour lire quelques versets que je vais vous lire dans le livre des Chroniques, en 1 Chronique au chapitre 28, les versets 11 à 19. Donc David donna à son fils Salomon le plan du portique et des bâtiments annexes, des chambres du trésor, des chambres à l'étage et des chambres intérieures, ainsi que du bâtiment abritant le propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit concernant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les pièces qui tout autour devaient être réservées au trésor de la maison de Dieu et au trésor sacré, concernant les classes des prêtres et des lévites et concernant tout le service de la maison de l'Éternel, y compris les ustensiles. Il lui donna aussi le modèle des ustensiles en or, avec le poids correspondant en or pour tous les ustensiles de chaque service, et de tous les ustensiles en argent, avec le poids correspondant pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids correspondant aux chandeliers en or et à leurs lampes en or, en indiquant le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids correspondant aux chandeliers en argent, en indiquant le poids de chaque chandelier et de ses lampes, en fonction de l'usage que l'on ferait de chaque chandelier. Il lui donna le poids d'or correspondant aux tables, des pains consacrés à chaque table, et l'argent pour les tables en argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des gobelets en or pur, le modèle des coupes en or avec le poids correspondant pour chaque coupe, et celui des coupes en argent avec le poids correspondant pour chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids correspondant. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins en or qui étendent leurs ailes par-dessus l'arche de l'alliance de l'Éternel qui la couvre. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a fait comprendre tout cela, tous les travaux de ce plan. Alors, cela nous fait penser, hein, c'est une description, voilà, avec des poids en or, en argent, etc., pour les ustensiles, pour, voilà, et même la description de toutes les pièces, de tous les espaces de ce temple, ça nous fait penser aussi à la description du tabernacle, comment le tabernacle devait être construit. Dieu avait aussi donné le plan du tabernacle. Si on regarde dans Exode 25, verset 9, hein, « Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Et bien dans le même chapitre, au verset 40, « Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Et après, Dieu même donne des dons à des artisans pour construire tout ce qu'il faut. Et il y a beaucoup de précisions, hein, pour le tabernacle. On est à, je crois, 5 ou 6 chapitres qui vont décrire le plan du tabernacle et tous les matériaux qu'il faut utiliser, etc. On a donc déjà 2 fois au moins ce motif, hein, Dieu donne un plan précis à suivre. Et donc, dans le cas du tabernacle, ensuite, dans le cas du temple de David, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres textes qui ne sont pas dans la Bible, depuis le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, on est en 2200 avant Jésus-Christ, à peu près l'époque de Abraham, même peut-être un peu avant. Et un certain Goudéa, prince de Lagash, on a retrouvé une de ses statues, même plusieurs, et il est représenté assis sur un trône, sans doute, avec les mains jointes, dans un geste qui symbolise la prière, encore aujourd'hui d'ailleurs, mais en tout cas dans la culture de cette époque, ça représentait un geste de respect de Dieu, en tout cas. Et il a sur ses genoux le plan d'un temple pour son dieu qui s'appelle Ningirsu, qui est donc sur ses genoux. Il a reçu dans la prière, dans la communion avec son dieu, ce plan-là. Et cette œuvre-là, on l'a au Louvre, elle s'appelle donc l'œuvre de l'architecte au plan. Et l'interprétation, en tout cas, qu'on en fait, c'est cela. C'est qu'on construisait les temples selon des normes et des plans qui devaient être aussi divinement inspirés. Si on regarde maintenant plus loin, dans le Nouveau Testament, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle aussi donc de Jésus en tant que notre grand prêtre. Et dans Hébreux 9, il dit ceci, Hébreux 9, verset 24. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Le temple que construit Salomon est censé représenter, quelque part, si on peut dire, le sanctuaire céleste, la maison de Dieu dans le monde spirituel, que Dieu lui-même a dressé. Hébreux chapitre 8, verset 2, verset 1 et 2, donc voilà le grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Donc on a quelque chose de l'ordre de la représentation terrestre, de quelque chose qui nous échappe complètement, la demeure de Dieu, le temple de Dieu au ciel. Donc David prépare tout, vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Il va prévoir le personnel, donc il a reçu le plan, il va prévoir le personnel aussi pour se servir au sanctuaire, il va prévoir les musiciens, il va prévoir les portiers et d'autres services encore au niveau administratif aussi. Et tout ça, on peut le lire donc dans les derniers chapitres du premier livre des Chroniques. On va pas tout lire, ce serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, il prépare plein de choses. C'est là aussi où David met en place les 24 classes de prêtres qui vont servir tour à tour pendant 2 semaines, en plus des grandes fêtes. Donc, parce qu'il fallait donc un certain nombre de prêtres pour les sacrifices. Et donc, lors des grandes fêtes, il fallait que tous les prêtres soient là. Mais le reste de l'année, une classe, un 24e, quoi, une des 24 classes suffisait. En 1 Chronique, chapitre 29, verset 3, on apprend même que David donne de ses biens personnels, de la réserve royale. Les rois gardaient toujours un petit peu d'argent en cas de coup dur. Et bien là, David va puiser dans cette réserve personnelle pour la construction du temple, pour acheter des matériaux, etc. Et comme David a tout préparé, alors Salomon pourra commencer la construction de ce temple assez rapidement. Il monte sur le trône et 4 ans après, la 4e année de son règne, il commence la construction du temple. Et tout cela, ça nous est rapporté par l'auteur du livre des Chroniques, qui écrit à une époque où il n'y a plus de roi, mais pour rappeler aussi au peuple la fidélité de Dieu quelque part. J'en dirai un mot de plus dans un instant. Et on le remarque d'ailleurs dans le texte, il y a le nom d'une monnaie qui est utilisée à un endroit dans 1 Chronique 29, verset 7. Et le nom de cette monnaie, c'est une monnaie perse. Donc on est à l'époque perse, ça montre que le texte a été écrit à cette époque-là. Peut-être pendant l'exil, peut-être au retour de l'exil, et en tout cas au moins actualisé à l'époque perse, parce que cette monnaie n'existait évidemment pas avant. Dans les 2 derniers chapitres maintenant du livre, du premier livre des Chroniques, donc 1 Chronique 28 et 29, on a un discours de David, parce qu'il sent, il a compris que son temps touchait à sa fin. Disons, c'est un discours de David qui nous est rapporté. Hein. Et avant de partir, il veut transmettre quelques grandes leçons à tout le peuple et aussi à son fils Salomon. Et finalement, en lisant ce chapitre, les leçons que David, les plus importantes pour lui, qu'il veut transmettre, eh bien, c'est aussi ce que l'auteur des Chroniques veut nous transmettre et voulait transmettre à ses contemporains. Et là, je vous propose qu'on lise, voilà, encore une fois, quelques versets. Donc, dans 1 Chronique 28, les versets d'abord 1 à 8. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions militaires au service du roi, les chefs de milliers, de centaines, ceux qui étaient intendants de tous les biens et troupeaux du roi et de ses fils, ainsi que les eunuques, les guerriers et tous les hommes vaillants. Le roi David se mit debout et dit « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de construire une maison qui soit un lieu de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel, pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à construire. Mais Dieu m'a dit « Tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la famille de mon père pour que je sois à toujours le roi d'Israël. Lui, il a choisi Juda pour chef dans la tribu de Juda. Il a choisi la famille de mon père et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Parmi tous mes fils, en effet, l'Éternel m'en a donné beaucoup. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel au-dessus d'Israël. Il m'a dit, c'est ton fils Salomon qui construira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes règles. Maintenant, devant tout Israël, qui est l'assemblée de l'Éternel et en présence de notre Dieu, respectez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Ainsi, vous pourrez posséder ce bon pays et le laisser en héritage à vos fils après vous, et ce, à perpétuité. Que veut nous transmettre l'auteur du livre des Chroniques à cet endroit ? Probablement que l'Éternel est fidèle et qu'il demeure. L'Éternel a choisi la tribu de Juda pour conduire les autres, et dans cette tribu, il a choisi la famille d'Isaïe. Et dans cette famille, parmi tous ses frères, il a choisi David pour le faire régner sur tout Israël, puis ensuite Salomon pour lui succéder sur le trône, et puis pour bâtir le temple qui abritera, comme nous dit le texte, le coffre de l'Alliance de l'Éternel et le marchepied de Dieu. Alors les temps changent, les générations passent, mais l'Éternel demeure, il est avant toute chose, il est au-dessus de toute chose et de tous, et quand David ne sera plus là, ben Dieu sera toujours présent. Et au temps des Chroniques, ben, il n'y avait plus de roi à cette époque-là. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ensuite, il y a donc ce passage que nous avons déjà lu tout à l'heure, où il y a la description donc, du plan, du poids en or pour les objets, etc., qui nous montre que ben, Dieu a un plan qui va jusque dans certains détails, hein, le détail des coupes, des bassins, du poids des chandeliers. Et d'un autre côté, ça ne suffit pas entièrement à vraiment construire. Hein. Il y a quand même une initiative qui est laissée à Salomon et une certaine liberté. Après l'exil, au retour de l'exil, le temple qui sera reconstruit ne sera plus selon le même plan que celui de Salomon. Et ce temple sera quand même agréé par le Seigneur. Dans beaucoup de domaines, en fait, Dieu veut nous voir le suivre avec le cœur, avec peut-être même respecter certains détails, mais en même temps, ce n'est pas une obéissance qui est machinale que Dieu demande de nous, ou robotique. Il veut nous voir parvenir aussi à la maturité spirituelle, prendre des initiatives qui, elles aussi, seront agréées par Dieu. On peut faire des choix personnels sans sortir du plan d'ensemble que Dieu nous a laissé dans sa parole. Et David dit à Salomon, « Mon fils, prends courage, tiens bon et mets-toi au travail. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail à effectuer pour le temple de l'Éternel. Et c'est une exhortation qu'on peut prendre pour nous aujourd'hui. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je ne sais pas si c'est en citant ce texte ou pas, mais en tout cas, dit aussi « Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais » dans la bouche de Dieu. Chapitre 29. Donc Dieu nous laisse avec un chantier devant nous à accomplir. C'est un défi et nous devons l'accepter, ce défi. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et faible et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être en or, de l'argent pour ce qui doit être en argent, du bronze pour ce qui doit être en bronze, du fer pour ce qui doit être en fer et du bois pour ce qui doit être en bois, ainsi que des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, en plus de tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 90 tonnes d'or, d'or d'Ophir, et 210 tonnes d'argent épuré pour couvrir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être en or, et l'argent pour ce qui doit être en argent, et pour tous les travaux accomplis par l'intermédiaire des ouvriers. Qui veut encore présenter aujourd'hui de façon volontaire des offrandes à l'Éternel ? Les chefs de famille, les chefs des tribus d'Israël, de milliers, de centaines, ainsi que les intendants du roi, firent des offrandes volontaires. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 150 tonnes d'or, 10 000 pièces, 300 tonnes d'argent, 540 tonnes de bronze et 3 000 tonnes de fer. Ceux qui possédaient des pierres les remirent à Jéel, le Guershonite, pour le trésor de la maison de l'Éternel. Le peuple se réjouit de ces offrandes volontaires, car c'était avec un cœur sans réserve qu'il les faisait à l'Éternel. Le roi David, lui aussi, en éprouva une grande joie. Donc David s'était adressé au chapitre 28 à son fils, mais là, il s'adresse à tout le peuple. On peut imaginer qu'il a devant lui une assemblée, un certain nombre de personnes qui se sont rassemblées devant lui. Et il leur dit que Salomon ne pourra pas accomplir la tâche qui est devant lui tout seul. Il faut que tout le monde l'aide avec leurs dons, que chacun l'aide avec ses dons. Et David lui-même a accepté cela. Il a donné, montré l'exemple en donnant donc de sa réserve royale, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et les représentants du peuple acceptent aussi de donner. Il s'engage aussi de cette façon. Alors bien sûr, aujourd'hui, on va lire autrement. Il ne s'agit pas d'apporter à l'Église des tonnes d'or. Je ne sais pas ce qu'on en ferait, on les revendrait tout de suite. Mais ça nous interpelle quand même quant à notre engagement. C'est quand même des considérables, hein, le don que le peuple fait pour la maison de Dieu. Et nous, c'est notre... Ça représente peut-être aussi les offrandes financières, mais bien au-delà, un engagement fort de la part de chacun pour construire l'Église qui est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire pas le bâtiment, hein, mais ensemble construire une communauté vivante au service de Dieu dans le monde. Et ce chapitre se finit avec de la joie qui est exprimée. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre ancêtre Israël, etc. À toi l'Éternel sont la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. » Et après, il dit même que c'est de toi, de Dieu que vienne la richesse, et que finalement, toutes ces richesses qui ont été apportées, ben, c'est Dieu qui les avait déjà données, etc. Et qui sommes-nous pour t'offrir ce que tu nous as toi-même donné, etc. etc. Je passe un petit peu pour souligner la fin ils mangèrent et burent avec une grande joie ce jour-là devant l'Éternel. Ils proclamèrent pour la seconde fois Salomon, fils de David, roi. Ils le consacrèrent par onction devant l'Éternel comme chef et Tsadok comme prêtre. Voilà la joie aussi que tout cela suscite de construire quelque chose en commun, de mettre toutes ces ressources ensemble. Et d'avoir de se rendre compte en fait aussi de tous les dons que Dieu nous avait faits. Et enfin, les derniers versets donc, de ce chapitre 29, que je vais quand même lire maintenant à partir du coup du verset 23. Hein, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de son père David. Il eut du succès et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les guerriers et même la totalité des fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel porta au plus haut point la grandeur de Salomon aux yeux de tout Israël et il rendit son règne plus éclatant que celui de tous les rois d'Israël avant lui. Ainsi David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Son règne sur Israël dura 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Il mourut après une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Son fils Salomon devint roi à sa place. Les actes du roi David, des premiers au dernier, sont décrits dans les annales de Samuel, le voyant, dans celles du prophète Nathan et dans celles du prophète Gad, avec tout son règne et tous ses exploits, ainsi que les événements auxquels il a été confronté, de même qu'Israël et tous les royaumes des autres pays. Si on regarde la fin de la vie de David dans le livre des rois, c'est plutôt une fin triste. David prend de l'âge, hein, c'est plutôt un vieillard, il a une santé fragile, on doit le soigner. Il aurait pu même être trompé sans la vigilance de sa femme et de Nathan parce que Adonia voulait accaparer le royaume pour lui, contrairement au désir de David. Et là, dans le texte des Chroniques, il n'est pas du tout question de ça. On voit au contraire le roi qui se met debout, qui fait une prière, mais qui fait un magnifique discours aussi à toutes sortes de personnes qui sont là devant lui, avant de mourir au terme d'une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Puis ensuite, son fils Salomon lui succède sur le trône. Alors, on pourrait s'interroger pourquoi on a une espèce de version différente de la fin de la vie de David. Alors, en fait, c'est pas que l'auteur des Chroniques ait voulu falsifier l'histoire. C'est ce qu'il le lisait, d'ailleurs, avec connaissance des textes aussi dans 1 et 2 Rois. En tout cas, au moins certains. Mais il va plutôt sélectionner les points positifs pour aussi souligner la continuité entre David et Salomon. David a eu un règne qui a permis vraiment voilà, à Israël de prendre une dimension que le peuple n'avait pas encore avant. Et Salomon va encore poursuivre cela et la gloire même de Salomon dépassera celle de David. L'Éternel a choisi Salomon pour le faire régner sur le trône et finalement les rois vont occuper ce trône à tour de rôle, mais c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Et il est le souverain au-dessus de tout être. Et c'est, je pense, cela que veut vraiment souligner l'auteur du livre des Chroniques. Il écrivait en un temps où le pouvoir de David et de Salomon, et même le royaume politique d'Israël, n'existait plus. C'était des réalités du passé. Il parlait de la majesté des rois quand il n'y avait plus de rois. Alors ça aurait pu être décourageant, mais avec toujours ce refrain qui vient, que l'Éternel règne, que Dieu continue à régner. Il n'y a plus de trône à Jérusalem, mais l'Éternel, lui, demeure toujours sur son trône. Il est le roi des rois et un jour viendra où le vrai roi sera à la fois celui qui est le descendant de David, donc le fils de David et aussi le seigneur de David. Et là, on a un texte que Jésus lui-même commente. Vous connaissez ce texte en Matthieu 22, hein, où Jésus interroge ce qu'il interroge en disant « Mais comment David peut-il dire que... ou comment peut-il être écrit que le fils de David est aussi le seigneur de David ?» C'est parce que c'est ce règne que David a inauguré, eh bien c'est celui finalement que Dieu veut accomplir et qu'il accomplit, commence à accomplir en Jésus. Et il y a encore d'autres étapes qu'on vivra tous ensemble. Voilà, donc pour ce texte, construire sa maison. Voilà, laissons-nous donc encourager aussi par ces textes du passé, mais qui peuvent encore nous parler aujourd'hui, parce que le règne de Dieu est actuel et encore futur.